et vous écoutez France Culture. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, sans aucune raison. Frank Zappa. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Frank Zappa, encore et toujours, à l'affiche de Mauvais Genre, installé en ce samedi dans le salon Radio France du Livre. Frank Zappa, qui guide Harold, Zappaïen s'il en fut, consacre une précieuse biographie dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Zappa Dada, Zappa Gnostique, Zappa Compositeur hors barrière, Mad Docteur des studios, libertaire, pornophane et transgressif. Zappa dans tous ses états, c'est ce soir dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Je salue tout de suite évidemment le public venu très nombreux en ce samedi pour écouter parler du grand moustachu. Hello boys and girls, the secret word for tonight is sepitf.
Sepitf.
Voilà, sepitf. Pourquoi ? Voilà, on va vous expliquer un petit peu ce gag. C'est qu'il y a une histoire d'amour depuis quelques années déjà entre Paco Mtielman et l'acronyme du comité d'entreprise de Radio France.
Sepitf.
Voilà, donc comme au début de tous les concerts de Frank Zappa, eh bien, il y a l'énonciation d'un mot clé, d'un mot magique qui gouverne tout le concert et qui gouvernera ce soir notre émission. Puisqu'on est à Radio France au Salon du Livre, ce sera... Sepitf, bonsoir Guy Darol.
Bonsoir.
Vous restez malgré tout.
Oui.
Bienvenue dans Mauvais Genre, vous êtes chez vous depuis longtemps, de par évidemment tous vos centres d'intérêt, ce que vous avez publié. Donc vous êtes notre invité pour cette biographie Frank Zappa, qui paraît chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Bah, Zappa est avec Attila, Marilyn Monroe, Bach, il est chez lui là. Tout est possible dans cette collection d'ailleurs, c'est la
oui,
grande
c'est
variété.
Une collection ouverte à 360 degrés, un peu comme Zappa d'ailleurs.
Absolument, on va voir ça. Vous serez entouré bien évidemment par l'antenne Radio France de l'international Zappaïenne, j'ai nommé Paco Mtielman, on l'applaudit.
Hello.
Voilà.
Carrément. Bonjour, je suis le copte du groupe.
Voilà. Alors Paco, lui, est l'auteur d'un essai sur Zappa, dont on peut rappeler le titre et l'éditeur.
Économie Eskimo, et c'était aux éditions MF.
Voilà, absolument. Musica Falsa.
Oui, voilà. C'était l'acronyme pour Musica Falsa. Un peu comme l'acronyme fameux Sepitf.
Voilà, Sepitf. Et Antoine Guillot, bonsoir.
Bonsoir, oncle François. Voilà.
Alors Antoine Guillot, qui n'a rien publié sur Zappa encore, mais tout est possible, mais qui, mesdames et messieurs, regarde bien, arbore un t-shirt qui dit tout. Freak out, voilà, il sera question, n'est-ce pas, de freakitude, de freak outitude, et puis de tout l'univers, bien sûr, de Zappa.
Car Zappa n'est pas mort, il a juste une drôle d'odeur.
Hein. Voilà, c'est ça, pour reprendre l'expression qu'il avait utilisée à propos du jazz. Mais en attendant de disparaître dans l'univers des Mothers of Invention et dans le monde de Frank Zappa, nous allons, comme tous les samedis, ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et ce soir, à la lettre,
à
ma
la
chère
lettre,
Céline.
La lettre F.
Comme Franck.
Eh bien non, comme Fredon, Félicia Fredon, pour son ouvrage Cigarette Rousse. Félicia Fredon est un pseudonyme qui a été choisi pour rendre hommage à Félicia Oumé Freden, roman libertin de 1775, qui raconte le destin sympathique d'une jeune fille qui découvre sexualité et plaisir, l'envers de la Justine de Sade. Donc autant vous dire qu'avec un tel saint patronage, il est question dans ce texte Cigarette Rousse de femme, de plaisir, de déambulation et de liberté.
Oui, c'est un jeu, c'est une partie du jeu, c'est une partie de la féminité, justement, qui est libre. C'est les textes que j'écris sont toujours sur des femmes qui déambulent, qui vivent leur corps en marchant, ou qui sont regardées par d'autres femmes, ou quelquefois par des hommes. Enfin, en tout cas, c'est une histoire de femmes, oui. Des corps qui s'expriment, des fois dans des choses très ténues, dans la manière de se vêtir. La manière de se vêtir, c'est un acte sensuel qui fait qu'on ressent son corps toute la journée. Si on marche avec des bas, on ne sera pas la même femme, évidemment, que si on marche avec un pantalon en laine. Et on a une manière de vivre son corps de manière sensuelle extrêmement différente en fonction de cet habillement. On a ce privilège, nous les femmes, d'être multiples à l'intérieur de notre corps et de nos vêtements.
Cigarette rousse, le texte de Félicia Fredon est publié aux éditions du Renard Pâle, maison d'édition étonnante et si créative, capable de consacrer une collection entière de ses ouvrages au clitoris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'objet d'une chronique il y a un an et demi environ. Donc ce Renard Pâle, animal sauvage et rare, aime les livres objets à très faible tirage où se croisent l'artiste et le poète, comme par exemple Michel Houellebecq et Gabriela Moravetz, Sonia Riquel, Pierre Molinier, pour ne citer que. Mais revenons-en à notre livre Cigarette rousse. De quoi est-il question précisément ?
C'est une jeune femme qui suit une autre femme dans la rue. Et en fait, depuis que la cigarette est un interdit, c'est devenu aussi quelque chose de sensuel et d'érotique, comme la plupart des interdits. Et le fait de suivre cette femme comme ça, dont on ne voit jamais le visage, qui est rousse, et cette odeur de cigarette, de fumée, devient tout à coup quelque chose d'érotique, de l'ordre du désir. Cette femme la suivra le temps de cette cigarette, d'ailleurs, le temps de voir ce pistil rouge qui brille comme ça dans la nuit et qu'elle suit. Et puis, il y a cette partie incandescente qui peut aussi évoquer le clitoris, bien sûr, donc qui est cet embrasement. Donc la cigarette, c'est un objet fantasmatique par excellence, on ne peut pas trouver mieux, je crois. Et c'est associé à des photos de Catherine Cooper. En fait, le livre est un petit livre-objet qui est présenté dans un étui à cigarette noire, qui fait un joli bruit quand on le ferme, une espèce de clic qui se referme sur le secret. Et donc, j'ai demandé à Catherine Cooper, qui est une artiste que j'aime beaucoup, une photographe avec qui je travaille depuis longtemps, qui est une blonde magnifique et qui a fait, pendant son adolescence, beaucoup de photographies dans le studio de son père, qui était photographe au Zimbabwe. Elle a photographié toutes ses amies, avec justement cette liberté merveilleuse, tous ces corps de jeunes femmes. Il y a cette photo où on voit cette jeune fille qui semble très mondaine, en fait, qui est nue, mais on voit assez peu de sa nudité, qui est assise à califourchon sur une chaise avec des gants blancs et qui fume de manière très hautaine, en fait. Elle doit avoir, je ne sais pas, peut-être 16 ans. Et on voit ce nuage qui la nimbe, un peu comme un masque qu'elle aurait quitté. Et cette photo est vraiment très jolie. C'est aussi parce que je pensais à Catherine que ce livre et ce texte existent. La matière de ses photos et la matière de ses corps donnent l'envie d'écrire et provoquent une sensation poétique. Like a cigarette is like a cigarette. Les yeux mi-clos, je la suis dans Paris, inhalant la trace d'une cigarette qui ondule nonchalamment au bout de ses longs doigts de rose diaphane et androgyne. Par instant, l'odeur du tabac se dilue dans le parfum vanillé, sucré ou poudré d'une passante. Puis, la fugace silhouette évanouie ressurgit l'odeur interdite en tout lieu clos, suave et libre en ce soir d'été. La rousse, peau blanche et grain de beauté se déhanche, froissant la soie. Son bras oscille en volute fragile, nimbant son cou délié. Les méandres dociles s'estompent au fur de ses pas. À l'eau opalescent, elle déambule sans visage. Mon cœur embrasé se consume à ce pistil ardent, le temps d'un coup de foudre aussitôt réduit en cendres.
Pour retrouver Cigarette rousse de Félicia Fredon et de Catherine Cooper, rendez-vous sur le site internet de la maison d'édition Le Renard Pâle. L'occasion de découvrir aussi Parisienne, petit livre précieux qui comporte 3 poèmes accompagnés des photos d'Henri Macaroni qui n'avait pas son pareil pour photographier les sexes de femmes. L'adresse du site www.renardpale.fr.
Merci Céline pour cette entrée. Donc
Félicia
Aimée Freuden de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. Guy Darol, la cigarette est vraiment un objet totalement emblématique de l'univers de Zappa.
C'était son légume préféré.
Voilà, c'est ça, c'était son passe-temps.
Il avait intégré la cigarette et le tabac aussi à sa diététique. Et il disait que ça faisait partie de son métabolisme.
Pour ne rien dire du café, avec lequel même il a entamé le grand voyage.
Exactement. Puisque ça fait partie des objets avec le poivre de Cayenne, voilà, qui en effet se trouvait dans son cercueil pour lui tenir compagnie, au même titre qu'une dinette de chrome au moment du grand départ.
Quant à l'univers érotique et pornographique chez Zappa, il est omniprésent et c'est une sorte de bélier, c'est une sorte de machine de guerre. Il a fait du récit érotique une machine de guerre idéologique et une dynamite artistique.
Absolument, ses paroles sont chargées de mots crus, de sales mots, dirty words, n'est-ce pas? Et aussi effectivement de philippiques, de charges contre diverses choses. En fait, il parle en américain. Il reprend le langage déjà adopté par Henry Miller, qui a été confronté à la censure, on s'en souvient. Mais d'ailleurs, Zappa aussi a été confronté à la censure, et c'est un militant contre la censure, sans restriction.
Et un militant totalement résolu et permanent. D'ailleurs, on va commencer par Zappa politique, puisqu'en effet, il y a plusieurs disques qui sont sortis tout récemment. Il y a déjà eu notamment un disque Zappa for President, qui commençait par ce qui peut être à la fois un hymne patriotique, un chant de guerre, en tout cas une profession de foi à l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique qui aura oublié ses fondations, l'Amérique amnésique. Et qu'on va écouter, on ouvre donc cette émission Zappa avec Guy Darol par America.
This is the America now. Amnesia, America, better somehow. What cannot be fixed by a favor or bribe should be dead or forgotten.
Initialement, quoi s'agit-il? Le chanteur, c'est Napoléon Murphy-Brock, ouais, qui est un des grands musiciens de Zappa, chanteur et saxophoniste. De quoi s'agit-il?
En fait, c'est le morceau qu'on entend là, c'est une édition toute récente, hein, mais c'était la première version de America avant sa publication sur Think Fish et ensuite sa réorchestration absolument fabuleuse pour l'ensemble moderne, pour Video Shark et le groupe de Video Shark, puisque le morceau lui-même est sorti sur Civilization Phase 3. Ce qu'on entend là, c'est à la fois un chant, on peut dire que c'est un chant sur l'Amérique, et c'est aussi un chant sur une Amérique imaginaire qui serait un peu l'Amérique de Kafka, qui est l'Amérique qu'on n'atteint jamais, qui est l'Amérique en fait que son père a rencontré, partie de la Sicile avec son grand-père de Portinico. Mais en même temps, on peut dire que l'Amérique, on n'y arrive jamais. C'est aussi celle d'Elia Kazan, de America, voilà. America.
Guy Darol, c'est l'Amérique auquel on n'atteint jamais, l'Amérique rêvée.
En revanche, ce que fait aussi Frank Zappa, c'est réverbérer l'Amérique réelle, l'Amérique concrète. Et ça, il le fait très très tôt, je veux dire depuis le premier disque, Freak Out, dont on fête aujourd'hui le cinquantenaire en quelque sorte, et où ses paroles, parce qu'on parle souvent de la musique de Frank Zappa, mais il faut aussi s'attacher aux paroles, c'est un hydre à mille têtes quasiment, où les paroles sont emplies de charges contre une société américaine qui porte un rêve qu'il soupçonne totalement illusoire.
Frank Zappa aux cinq claviers, on va en parler de cet animal bizarre, ce monstre étrange qu'il avait réussi à dompter à la fin de sa vie, qui est un des ancêtres d'une sorte de super synthétiseur, et puis d'un Napoléon Murphy-Brock aux paroles. Alors effectivement, ça nous introduit tout de suite, je dirais, à l'actualité américaine. On sait les charges violentes que Zappa a menées tout au long de sa carrière, à la fois de musicien, de showman, de parolier, d'acteur politique, de producteur, d'homme phare de la culture américaine du XXe siècle. Il a mené contre, je dirais, l'Amérique moisie, c'est-à-dire l'Amérique de la prévarication, du mensonge et de la tartufferie généralisée. Alors, il y avait bien évidemment sa cible préférée, Jimmy Swaggart, et tous les télévangélistes millionnaires qui étaient, alors eux, des tartuffes en or massif, mais surtout Nixon. Alors, on peut peut-être imaginer, Guy Darol, ce que Zappa aurait fait de Trump. Ça aurait été grandiose. On aurait peut-être eu un opéra complet de Zappa sur Trump.
Sûrement. En tout cas, il a en quelque sorte prophétisé, parce qu'il y a une dimension prophétique aussi dans le discours zappaïen. Il aurait prophétisé sa venue, puisque la situation allait de mal en pis au fil des ans. Il a commencé très très tôt, en effet, à s'en prendre à Richard Nixon, mais tout au long de son répertoire, de ses chansons, et il ne désarme jamais, et en particulier, comme vous le dites, avec de fortes charges contre les télévangélistes.
Jimmy Swaggart. Il annonce l'arrestation pendant un concert. On a le
absolument. Pat Robertson, qui demandait à ses ouailles de vider leurs poches pour remplir les siennes, puisque lui, il était devenu milliardaire. Il pouvait ainsi s'acheter des limousines, un avion privé, etc. Donc il y a effectivement cette dimension politique chez lui qui prend un accent... De campagne électorale avec la dernière tournée, celle de 1988, et l'annonce faite sur une radio à Berkeley qu'il se présenterait aux élections de 1992, puisqu'il envisage à ce moment-là de faire une étude de faisabilité. Mais en effet, les choses se sont bien dégradées et le prophète, l'oracle qu'il était, a tout pigé.
C'est vrai qu'au moment de l'élection de Trump, on a vu surgir ici et là des grandes questions. Qu'est-ce que Zappa en aurait pensé? Et il a suffi de ressortir un certain nombre de titres de Zappa, comme sa version de God Bless America, complètement carnavalesque et en même temps habité par une vraie pensée de l'Amérique. Et il suffisait de se replonger dans la pochette de ce disque de la tournée de 1988, Broadway the Hard Way, où on voyait une citation écrite en gros sur un mur de cuisine à l'américaine: Facts are stupid things. Les faits sont des choses stupides. Et ça a été exactement ça, la campagne de Trump, c'est-à-dire refuser les faits puisque les faits sont des choses stupides. Or, cette citation vient d'une figure historique américaine telle qu'elle est présentée sur la pochette. C'est tout simplement Ronald Reagan.
Un autre ami de Frank Zappa, pas comme
oui, il y a un autre point aussi qu'on connaît peut-être pas assez de Zappa politique, c'était son opposition à la première guerre du Golfe. Celle de 91. En plusieurs interviews, il avait parlé, il était extrêmement opposé à l'interventionnisme américain dans le Moyen-Orient. Et dans une interview où il reparle évidemment des accords Sykes-Picot, et il conseille aux intervieweurs de revoir Lawrence d'Arabie et de réfléchir aux implications que ça a eu sur un siècle, les interventions de l'Occident sur le Moyen-Orient. Là aussi, il y a un Zappa très très intéressant qui s'y dessine.
Alors, mauvais genre, spécial Frank Zappa à l'occasion notamment du centenaire du groupe Dada, dont il est une des... Je veux dire, expansion les plus notables, et puis 50e anniversaire, Guy Darol, de la sortie de son tout premier disque, premier coup d'éclat.
Freak Out,
1966.
Oui, qui est en quelque sorte un manifeste, le manifeste du freaking out, c'est-à-dire de sa philosophie personnelle. Un disque, à mon avis, majeur, parce qu'il arrive à agglomérer tous les styles musicaux confondus qu'il a mis en place déjà depuis plusieurs années. Donc, à mon avis, c'est quand même un opus fondamental, celui sans doute par lequel il faut commencer. Si on veut bien commencer par un disque de Zappa, ce serait Freak Out, à mon avis. Et on y rencontre, en effet, toutes les influences qui sont les siennes, varésiennes, stravinskiennes, etc., mais aussi le doo-wop et ces pamphlets qui peuvent parfois prendre place dans des cantilènes doucereuses comme le doo-wop, mais qui sont quand même extrêmement acides.
Alors Zappa meurt en 1993, Guy Darol, après une vie mais entièrement consacrée au travail, à l'effort créateur, véritablement un personnage qui s'est tué au travail, on peut dire que l'expression n'est pas abusée en ce qui le concerne, il était né en 1940, donc il meurt à 53 ans, ce qui est extrêmement précoce. Ce qui est étonnant quand on lit votre livre, c'est, je ne dis pas, il est aux quatre coins du terrain en même temps, et écrire une biographie de Zappa, il y en a eu d'autres avant, celle de Barry Miles, celle de Christophe Delbrück en France, il faut être aussi aux quatre coins du terrain, c'est-à-dire être à la fois sur la route route avec lui, avec ses musiciens, ses orchestres à géométrie variable, être avec les intervieweurs, il a donné des centaines d'entretiens, être également dans cette espèce de sous-sol de sa villa de Los Angeles, s'appelle The Vault, dans lequel est l'Iliage, il y a tous ses concerts enregistrés, toutes les vidéos, parce qu'il a la mémoire de tout ce qu'il a fait, et en même temps suivre son processus créateur, c'est quand même une biographie de chien à faire, j'imagine, du diable plutôt.
Ben comme vous venez de le dire, c'est un multiple. Mmh. C'est-à-dire qu'il a réalisé un continent musical dans lequel on entre comme dans un dédale. Il y a différentes portes, et derrière ces portes se cache en effet un batteur, un timbalier, un guitariste, un compositeur, un cinéaste, un producteur, un ingénieur du son, un graphiste, un peintre... un postulant à la présidence des États-Unis, etc., etc., etc. Donc, effectivement, composer une biographie de Zappa, ça veut dire tenter quand même de pousser toutes ces portes pour dessiner un personnage tout à fait passionnant.
Pas comme tellement.
En plus, il y a le problème de dessiner le personnage qui est un artiste, c'est jouer aussi avec l'espèce de bizarrerie qu'est leur existence dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bosser sur quelque chose et c'est autre chose que les gens connaissent d'eux. Zappa, à chaque fois qu'un disque de Zappa sort, il y a déjà deux disques en avance ou trois disques en avance et donc il y a déjà deux mondes ou trois mondes en avance. Parce que chaque disque est un monde. Chaque disque explore un fragment d'une espèce de cosmos étrange qui est tout le temps en train de se mouvoir, qui est aussi la façon dont il repense son art de la composition. Entre, mettons 72 et 74, il traverse 2, 3, 4 univers complètement différents, du jazz, du big band, des projets d'opéra, retrouver le funk, faire intervenir les high cats, réinvestir la chanson sarcastique ou la chanson politique ou la chanson sexuelle, et à chaque fois, c'est là où la biographie écrite par Guy est très intéressante. On se rend bien compte que quand le disque sort, de toute façon, il est déjà deux mondes plus tard. Donc il y a aussi ce truc très, très, très étrange de devoir le suivre dans le temps.
C'est un saut de barrière athlétique. Il va très vite. Il va toujours très vite. C'est-à-dire qu'il a une capacité aussi d'attention, de curiosité à la musique qui est telle qu'en effet, non seulement il enregistre toutes les possibilités dans le moment présent musical, mais en plus il anticipe une nouveauté par rapport à ce qui lui est proposé, donc il va toujours au-delà de quelque chose, au-delà de la rock, au-delà du rock, au-delà du doo-wop, au-delà du jazz, au-delà du soul funk, et quelque part aussi au-delà de la musique contemporaine qu'on va qualifier de sérieuse ou de savante, si vous voulez. C'est toujours autre chose qui est proposé.
Antoine Guillaume.
Mais vous avez été aidé pour ça par la pratique même de Zappa. C'est-à-dire que c'est une pratique du collage, vous l'avez dit, avec aussi ce concept de xénochronie qui fait que tout coexiste en même temps et que sur un disque, on peut tout à fait superposer une bande enregistrée en 1967 avec une autre de 1981 où le batteur viendra de celle de 1976 et que tout cela est cohérent chez Zappa. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il y a un projet global et vous pouvez raconter de fait sa biographie dans ce qui a l'air d'être une dispersion et qui n'est en fait que autant de taches sur une petite mosaïque qui donne une image globale qui est effectivement l'art unique de Zappa.
C'est une cohérence hybride. En fait, c'est un nouveau langage qui se met en place à un moment où il n'est pas habituel de jeter des ponts vers des territoires divers. Donc effectivement, il construit une œuvre qu'on pourrait qualifier d'hybride, mais qui résiste à mon avis à tout étiquetage. Et il serait tout à fait hasardeux de dire de Zappa, par exemple, c'est un rocker ou un jazzman. Alors s'il est rocker, c'est un rocker mutant. Et si c'est un jazzman, il est également mutant. Il se dérobe à tout nominalisme en fait.
1, 2, 3, 4.
François Angelier.
Don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both my feet's too long. Of course not right along with them, got no natural rhythm. But I go dancing every night, hope one day I might get it right. I'm a dancing fool.
Voilà, pas comme tellement, exégèse.
Dancing Fool.
Dancing Fool, exégèse du Dancing Fool. Parce qu'on entend en ce moment.
C'est une chanson qui est écrite en réaction au disco. Et c'est une chanson. Ce qui est formidable, c'est qu'il est capable de parler du disco en faisant du disco, mais en faisant du disco quelque chose d'autre. Quoi.
Voilà. Il y a des rôles.
Mais c'est aussi une chanson autobiographique.
Ouais. Voilà.
Parce qu'à la suite d'une chute au Rainbow Theater,
où il a été poussé par un pas un fan, enfin par un.
On dit que c'est un fan, je pense que c'était plutôt un ennemi.
Il est poussé dans la fosse.
Il faut se méfier des fans. Hein. John Lennon aussi, on a fait les frais.
Oui. C'est un peu la même chose. Donc il s'est retrouvé effectivement 4 mètres plus bas, avec pas mal de dégâts. Le larynx enfoncé, ce qui fait que sa voix d'ailleurs a changé d'un tiers. Sa voix est devenue celle que l'on connaît, c'est-à-dire très grave et très savoureuse à écouter. Mais dans l'affaire aussi, il a eu une jambe un peu raccourcie, un peu rabotée. Et cette chanson, Dancing Fool, le raconte.
Oui, absolument.
Yowza, yowza, yowza. Oh, I got it all together now. With my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something. That's what you probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool.
Dancing Fool, Frank Zappa, un concert de Chicago en 1978, d'ailleurs qui vient de sortir sous le label Zappa Records. Alors Guy Darol, essayons d'aller un peu à la racine et voir un peu l'histoire du déploiement du génie de compositeur de Frank Zappa, qui n'est pas un rocker, qui n'est pas un jazzman, qui n'est pas une sorte de musicien populaire fasciné par la musique savante, qui est tout cela en même temps, qui est d'abord Fundamental Gang, comme Charm Ives, comme Bernstein, un compositeur américain. Et ce compositeur américain, bah, comme tous les compositeurs américains, il a fait feu de tout bois, c'est-à-dire d'une part du rhythm and blues, du doo-wop, aussi bien que de Charles Ives, de Stravinsky et de la musique de Varese. Donc déjà, essayons dès le départ de voir un peu le processus. Comment est-ce qu'ils sont, parce qu'il faudrait des heures, l'histoire de ce processus.
C'est très étonnant parce qu'ils commencent évidemment à l'âge de 13 ans à acheter des disques, et ce sont des disques de blues et de rhythm and blues, principalement de rhythm and blues. Mais il se trouve que par un curieux hasard, il est mis sur la voie d'Edgar Varese. Et là, il a 14 ans...
Curieux hasard, il faut quand même raconter l'histoire.
Oui, c'est-à-dire que les parents de Zappa viennent d'acheter un électrophone, on leur offre un disque des Gaylords et de Little Shoemaker, une version anglaise.
Francis Lemarque, version américaine.
Voilà, absolument. Et puis lui, ça n'intéresse pas trop cette musique, et il, dans le salon, sur la table, traîne un magazine, le magazine Look, il lit un article qui évoque un disquaire qui vient de s'installer à New York, et il y a une photo d'Edgar Varese, photo qu'il représente en vieux fou, hein, en savant.
Savant fou, oui.
Et l'article le présente sa musique comme quelque chose de tellement percussif, inaudible, et ça l'intéresse. Alors ça l'intéresse aussi parce qu'il était très intéressé par Spike Jones, c'est son premier choc musical, et il a 8 ans.
Donc Spike Jones, grand orchestre de musique délirante et parodique.
Un massacreur de classique. Mais également quelqu'un qui est très, très percussif et très drôle, notamment quand ses airs sont chantés par George Rock avec sa voix zozotante, notamment. Donc voilà, donc il tombe sur cet article et il va essayer de trouver un moyen pour trouver un disquaire où il pourra se procurer ce disque. Il arrive à trouver à La Mezza un disquaire qui lui propose un disque, qui est un disque les travaux d'Edgar Varese, un disque de démonstration. Alors,
on peut pas lui vendre parce que ça sert à tester les chaînes et les pick-up qu'on vend aux clients.
Voilà. Exactement. Donc on lui propose de l'acheter pour $5.75, il fait ses poches, il n'en a que $3 et quelques, et il repart avec ça, qu'il écoute ensuite absolument religieusement.
Donc, brusquement, ce jeune Américain qui écoutait du rhythm and blues, du doo-wop, du blues, qui avait aussi du goût pour le percussif, au sens où il faisait des explosions dans le garage de son père.
Absolument.
Donc, il avait aussi un goût pour la percussion et le percussif sous toutes ses formes. Brusquement, et totalement, mais explosé intérieurement par cette musique, qui est, je crois, Arcana, si mes souvenirs souvenirs sont bons.
C'est Ionisation.
Ionisation, pardon. Et qu'il a. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zappa à ce moment-là? Est-ce qu'on peut arriver à. Genre, le Big Bang.
Je pense qu'il y a un commencement de synthèse.
Voilà.
Un commencement de chimie ou d'alchimie qui se met en place. Et je pense qu'il découvre que sa véritable orientation est celle d'un percussionniste, quelque part. Et c'est celle du bruit aussi, du bruitisme. Probablement à travers Spike Jonze à ce moment-là. Mais en vérité, il va apprendre, il va apprendre la batterie. Il va devenir timbalier très tôt au sein de l'orchestre de son lycée, sous la direction de Robert Cavellman, qui est un merveilleux professeur.
Qui lui révèle les structures harmoniques qu'il y a dans le doo-wop. Aussi que dans la musique qu'il aime, celle qu'il achète, il y a une complexité de composition qui n'est pas loin du dodécaphonisme par moment.
Il lui enseigne le dédécaphonisme, mais d'une manière tout à fait avant-gardiste en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'au lieu de préférer l'exégèse musicale, expliquer ce que c'est que les parités intervalliques, la tonalité, il fait écouter de la musique. Donc en classe, on écoute Webern, on écoute Berg, on écoute Boulez, et ensuite on parle. Et à la fin du cours, on peut même discuter des choses qui nous intéressent et voir si ça ne peut pas se mettre en rapport avec ce qu'on vient d'écouter, qui est principalement orienté de dodécaphonisme. Donc il est vrai que là, il est culturellement préparé à écrire des compositions. Mais d'une manière très étrange, parce que c'est un graphiste également. Il aime beaucoup dessiner, contrefaire des billets de 1 dollar.
L'attention qu'il portera aux couvertures de ses disques.
Voilà, il contrefait des billets de 1 dollar très bien. C'est un graphisme talentueux et qui envisage l'écriture musicale comme une calligraphie. Ses premières partitions écrites sont des notes qui dansent sur la page et qu'il va essayer ensuite d'interpréter.
Pas comme tellement.
Oui, il y a quelque chose d'un dessinateur de bande dessinée chez Zappa. Il y a aussi un sens très aigu du montage, et à côté, il fera aussi du montage film, parce qu'il aura une table de montage chez lui, et toute sa vie, il adorera passer du temps à reprendre ces espèces de films amateurs pour les monter, pour arriver à finir par en faire des vrais films par le truchement du montage. Il y a un autre élément qui compose sa genèse musicale que j'aimerais évoquer, qui est l'ethnomusicologie. En particulier les disques d'Eben Barechtaya, qui était un ethnomusicologue bengali. Guy en parle un peu dans sa biographie.
Dans les années 60 du XXe siècle
américain. Exactement, 50-60, qui a sorti à cette époque-là une centaine de disques, et dont le plus célèbre et le premier était Music from the Desert Road. Alors, c'est un Indien, mais il va surtout dans le Moyen-Orient. Et en fait, c'est des musiques de rue, des musiques de rue de Turquie, d'Irak, d'Iran, d'Afghanistan,
de Jordanie.
Et ça fait des disques qui sont des disques absolument superbes, mais on entend la genèse du style des solos de guitare de Frank Zappa, qui seront une des choses les plus curieuses par rapport à l'univers du rock. L'univers du rock va intégrer énormément d'éléments de la musique jazz ou de la musique classique. Va même intégrer un peu de Moyen-Orient à travers les Zeppelin, mais jamais ce que Zappa va y amener, en particulier cette espèce de comme un son qui semble toucher le cosmos, quoi, qu'ont ces solos de guitare. C'est très long solos de guitare qui sont des sortes de ragas qui sont en rythme impair, modo, donc sur un seul accord, et où un autre monde émerge.
Un autre album qui vient de sortir sous le label Zappa Records, Little Dots, Pacôme. Alors là, effectivement, on a l'impression que c'est une œuvre de Ligeti. Et rapidement, on va passer à autre chose pour retourner à du Ligeti.
Little Dot, c'est le grand oiseau. Donc c'est l'orchestre du grand. Non, c'est le petit oiseau.
Petit oiseau, pardon.
C'est le petit oiseau. Donc c'est
le petit oiseau, c'est un des orchestres de Frank Zappa. Voilà. On change souvent les noms de ces orchestres.
Voilà. C'est la formation légère du grand oiseau.
Du grand oiseau.
Et c'est l'année où il est sur sa chaise roulante. C'est l'année 72 où il est sur sa chaise roulante et où là, il doit réinventer entièrement son rapport à la musique avec les grands orchestres ou avec des plus petits ensembles, mais qui font une musique qui touche à la fois au jazz et en effet à la musique contemporaine. C'est des musiques très intéressantes. C'est pas sorti du tout de son vivant, ces morceaux-là. Tous les morceaux live. Et après sa mort, on a ressorti des bandes. Sa famille a ressorti des bandes sur plusieurs disques. Le Grand Oiseau sur un album qui s'appelle Zappa Oiseau. ou Oiseau, des fois on l'appelle juste Oiseau, et le petit Oiseau sur Imaginary Disease, et celui-là, Little Dots, qui vient de sortir.
Little Dots Part 1, donc sur l'album qui vient de sortir, qui est à peu près le même nom d'ailleurs,
oui,
Little Dots. Alors, Antoine Guillon, on commence déjà un peu à topographier l'ensemble, musique noire américaine, doo-wop, blues, musique savante américaine et contemporaine, surtout ce qu'on appelle la modernité européenne, Varèse, Stravinsky, Bartok et tout.
Voilà, alors cette fusion, le gros problème de Zappa, c'est de trouver des gens pour la jouer. On trouve dans les disques sortis à la fin de sa vie ou après sa mort, par exemple dans The Lost Episodes, on trouve à un moment une performance de 1963, donc Zappa est tout jeune, il a 23 ans, il joue une musique, vous le dites, Guy Darol, où on peut lire les influences à la fois de Boulez, de Stockhausen et d'Ornette Coleman. Le problème, c'est de trouver des musiciens à la hauteur. Et ces premiers groupes, les Mothers, qui se seront agglomérés au fil des rencontres, des sympathies, du mouvement freak, etc., seront pas toujours capables de jouer dans le rythme, les bonnes notes, à la bonne vitesse, et Zappa n'aura de cesse de se constituer des orchestres, comme l'a fait Duke Ellington, en allant chercher des individualités extrêmement riches, mais qu'il va sublimer dans l'espèce de patte musicale desquelles il fait émerger. Alors, le Grand et Petit Oiseau sont un des premiers moments où il y arrive. L'Acmé, pour moi, c'est le groupe qui réunit à la fin de sa vie, justement dans la tournée de 1988 dont on parlait à l'occasion de la politique, mais où il n'a que des musiciens excellents, et il arrive à obtenir à la fois de faire jouer cette musique concrète, bruitiste, de dodecaphoniste, tout ce que vous voulez, mais également extrêmement rythmée. On peut passer d'un concerto de Béla Bartok à du doo-wop complet. Il y a même des moments de rap à cette époque-là. Et là, il atteint peut-être effectivement l'objectif qui s'était fixé à un moment, qui n'était ni d'être un musicien qui fait danser les gens, qui fait du swing ou des reprises, ni un musicien purement cérébral de musique concrète, mais celui qui peut faire tout ça à la fois. Et pour ça, il fallait avoir ces musiciens qu'il dirigeait. En plus, on parlait de l'aspect graphique, comme un chef d'orchestre de sound painting, c'est-à-dire qu'il faut voir des vidéos de Zappa dirigeant, et par un froncement de sourcils, par un petit doigt qui bouge ou par une moustache frisée, va faire changer à la fois le rythme, les harmonies et la couleur générale de l'ensemble.
Guy Darol.
Vous avez tout à fait raison, ça fait partie aussi du génie de Frank Zappa que d'avoir en quelque manière inventé le sound painting. C'est-à-dire cette technique de gestes, de signes corporels qui peuvent alerter les musiciens pour modifier leur jeu, pour changer de direction. Oui, alors il y a effectivement cet Acmé, qui est la tournée de 1988, qui va se décliner en un grand nombre de disques. Et il y a aussi, je pense, The Yellow Shark, où là, il est véritablement dirigé, ses pièces sont dirigées par Peter Randall, à qui il rend vraiment compliment. Parce qu'il est constamment déçu par les interprétations de ses œuvres.
Même celle de Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain, c'était pas complètement ça.
Et même Zubin Mehta, Kent Nagano, même les cadors, si
Peter
j'ose dire.
Il n'est jamais content parce que ce qu'il reproche à ses musiciens, c'est leur manque de disponibilité. Lui, c'est un grand travailleur. Il travaillait 10 heures.
Il commençait à 15 heures, il finissait à 8 heures du matin avec un jerrycan de café et 15 cartouches de clope.
Donc il demande une grande disponibilité à ses musiciens et il l'obtient rarement. Parce qu'au fur et à mesure de son avancée, évidemment, il est entouré de musiciens très compétents. Au début, c'était moins le cas avec les Mothers. Mais de plus en plus, il est entouré de musiciens compétents, mais il y a toujours leurs limites. Le manque de temps, il joue la montre.
Au point même qu'il était quand même, d'abord sur la carte de visite d'un musicien international, avoir joué avec Zappa, c'était quand même un crédit énorme. J'ai même lu dans votre biographie qu'un de ses batteurs a été choisi à l'issue d'une séance d'audition de 57 autres batteurs.
Absolument.
Donc ça témoigne quand même de la difficulté. Quand on, et les partitions de test étaient quand même absolument illisibles, enfin d'une complexité tout à fait redoutable. Alors effectivement, on parle des musiciens, c'est vrai qu'ils se rêvaient avec des virtuoses absolues, au point même que c'est une musique qui aurait pu être inhumaine, au sens où, parmi ses influences, influences, il y a Conlon Mancaro, musicien américain, contraint à l'exil au Mexique après avoir été dans les brigades internationales en Espagne. Et Conlon Mancaro est un musicien génial, connu pour des partitions injouables au piano mécanique, pour lequel il écrivait des bandes perforées qui aboutissaient à des espèces de tornades de sons totalement non reproductibles par le talent humain. Et peut-être qu'à la fin de sa vie, avec les virtuoses allemands, il a enfin trouvé quelqu'un qui pouvait y arriver, Guy Darol.
Alors, le Saint-Clavier.
Voilà.
Le Saint-Clavier, c'est la transposition du piano mécanique dont vous parliez avec Conlon Mancaro.
Mais à défaut de musiciens, il avait donc ce Saint-Clavier.
Ou même peut-être contre les musiciens, voilà. C'est-à-dire pour n'être plus embarrassé par le genre humain. Voilà. Il savait que là, il n'y aurait pas de contre-ordre. La machine répondrait à toutes ses demandes.
Le Saint-Clavier ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, est toujours à l'heure, on peut le réveiller la nuit, il est présent.
C'est exactement ça.
Mais quelle merveille, le Saint-Clavier, Antoine Guillot.
Et à l'inverse, Zappa pouvait rendre hommage aux musiciens qui étaient meilleurs que lui. C'est-à-dire voilà. Que quand Frank Zappa découvre Giorgio Duke et Jean-Luc Ponty, il va dire, mais c'est incroyable, ils jouent mieux que moi, ils ont c'est vraiment des maestros, mais mes compétences sont complètement dépassées, qu'est-ce que je vais écrire pour eux? Et aussi, plus tard, il se rendra compte qu'il y a certains morceaux de guitare et des solos qu'il ne peut pas jouer, et il recrutera ce qu'il appellera ses guitaristes acrobatiques qui seront là. Le dernier, c'était Mike Kennelly, pour pouvoir jouer ces partitions complètement incroyables. Donc, c'est encore une fois la référence à Duke Ellington pour moi est là, c'est savoir utiliser les musiciens comme des instruments.
Alors, ça, c'est G-spot tornado. G, c'est une allusion au point G, qui est le point orgastique du corps humain. Tornado, on aura compris. Et c'est Zappa au Saint-Clavier. Et à la fin de sa vie, il a quand même réussi à trouver des musiciens qui pouvaient exécuter ce qu'on entend en ce moment. Voilà, Frank Zappa aux 5 claviers pour se jouer, nous jouer et jouer, G-spot Tornado. On parlait de xénochronie, concept assez complexe, qui est une sorte de durée absolue de la musique. Guy Darol, là aussi, la question du temps musical chez Zappa est centrale, puisque de même qu'il brassait toutes les dimensions de la musique, il voulait aussi brasser toutes les dimensions du temps musical, à la fois dans la partition et même dans l'histoire de ses apparitions en scène et ses créations.
Oui, il y a chez lui le syndrome du contrôleur absolu. Mais il a effectivement une vision du temps qui est très singulière, puisque quand on l'interroge sur ce thème, il ne croit pas au temps successif, passé, présent, futur. Cette linéarité, pour lui, est un préjugé. En vérité, il conçoit le temps comme une constante sphérique, et je pense que le fait de concevoir le temps à la manière circulaire peut expliquer aussi la façon dont il gère son travail, dont il gère l'œuvre, et la façon dont il va boucler la boucle réellement à la fin de sa vie, c'est-à-dire organiser les choses de manière à ce que tout soit absolument disponible dans l'ordre qu'il a souhaité.
En fait, cette expérience-là, elle correspond aussi à l'expérience du concert. C'est-à-dire que dans les tournées de Zappa, dans les concerts, il en parle souvent. Si vous faisiez des tournées comme moi, vous vous rendriez compte au bout d'un moment que le temps est circulaire, que c'est une constante sphérique. C'est-à-dire que dans le temps du concert lui-même, c'est comme s'il regroupait toutes les forces de toutes ces musiques et qu'elles venaient toutes se rejouer à cet endroit-là. C'est pour ça que souvent, dans ces concerts, on retrouve des allusions à des concerts, mais de 15 ans avant, ou des annonces de ce qu'il va faire 4 ans plus tard. Et c'est cette capacité-là qu'il fait. Ensuite, lorsqu'il fait ses albums, il coupe les morceaux et il les recolle, en fait, tels qu'ils se sont passés dans sa tête, comment il a pu les vivre, comme si, dans le concert lui-même, il voyageait dans le temps.
Antoine Guillot, c'est vrai que vous vous délectez à repérer au sein d'un morceau édité ce qui appartient à toutes les temporalités, puisqu'on a la batterie peut-être de 75, la basse de 83, la voix de 86, et tout ça est remixé. Il ne pouvait pas laisser un morceau en paix. Il y avait toujours du remix, ce qu'on appelle l'overdubbing, des voix rajoutées.
Oui, mais il en rend très bien compte dans une série d'albums qui s'appelle You Can't Do That On Stage Anymore. Sauf que la grande franchise de Frank Zappa aussi, c'est qu'il y a un appareil critique qui les accompagne, où il va donner toutes ses sources en disant tel morceau est issu. Et effectivement, et là vous voyez qu'il y a parfois 30 ans d'écart entre deux morceaux, où il va inventer un orchestre, il va l'appeler The Best Band You Never Heard In Your Life, c'est-à-dire le meilleur orchestre, vous ne l'avez jamais entendu, mais moi je peux le recomposer. Et en même temps, il y a cette matière vivante, c'est-à-dire je reviens sur cette idée du musicien, rien n'est là sans le musicien. Et même quand il programme son cinq claviers, on a le sentiment qu'il y a une incertitude humaine. C'est la force de cet appareil qui est tout sauf froid, qu'est le cinq claviers, c'est qu'il est habité par le programmateur qui est Zappa. Il était entouré d'ingénieurs, par lui-même, et on sent la patte de cette petite note qui a été rajoutée à 2h du matin au moment où il faisait sa pause. Quoi.
Cette petite note qui est aussi la grande note, un concept avancé par lui en 1963-1964, qui s'insère dans un programme qui est le projet objet, où il indique justement ce que Paco de Tielemans disait tout à l'heure, que toute chose peut être comprise dans un seul point en quelque sorte. Que tout est contenu, la grande note, c'est que tout est contenu et tout est ramassé, la diversité de son travail est ramassée en un seul point, la grande note, chose qui sera développée ensuite plus tard avec la notion de continuité conceptuelle, où il explique que si l'on veut véritablement avoir une connaissance précise de son travail, il faut savoir que tous les éléments sont coordonnés et qu'il faut prendre en compte, évidemment, un concert, une pochette et évidemment la musique. Tout est absolument coordonné.
Même les interviews.
Et même les interviews.
Oui, il avait dit.
Et même les émissions de radio sur Frank Zappa. The Uncle Meat Variations, donc tiré d'un album aussi qui vient de sortir, Meat Light. Alors on évoquait le centenaire de Dada, 1916-2016, et Guy Darol, le cinquantenaire du premier disque de Zappa. C'est vrai qu'il y a une filiation directe entre le Café Voltaire de Zurich et puis le Frick Center de Los Angeles, et que Zappa et Dada in Action revendiquaient.
Absolument, puisque il pensait véritablement que on faisait une grave erreur d'aller à l'université, qu'il fallait plutôt se renseigner en fréquentant les librairies et les bibliothèques, et il conseillait à ses enfants de tout connaître de la culture Dada. Donc c'est dire à quel point il plaçait haut Dada et ses actions. Et je pense que la première fois où on le voit véritablement, c'est dans le Stephen Allen Show, en mars 1963. Et là, ce qu'il donne à voir est quand même extrêmement étonnant. C'est qu'il joue de la baguette et de l'archer avec un vélo retourné.
Le vélo de sa sœur, d'ailleurs.
Et qui est le vélo de sa sœur Candy. Donc on voit bien là le lien qu'il y a entre ce moment, la roue de bicyclette juchée sur un tabouret de Marcel Duchamp, et un rapport étroit avec Dada. Dada, c'est Francis Picabia, c'est
alors justement, le camarade Voltaire. Citez Picabia en exergue de votre livre, Guy Darol, chez Gallimard. Je suis un homme difficile à comprendre, peut-être le précurseur d'un avenir encore non démontré, dit Picabia, citant Frank Zappa. Et ensuite, comme Zappa disait que le jazz sentait bizarre, il y a une citation de Ribon d'essai. Non, mademoiselle, Dada n'est pas mort, mais il a des boutons. Voilà. Donc, non, Zappa Dada, ça marche.
Absolument.
Pas comme Tchelman. Alors, il y a aussi Zappa Jari.
Oui. Alors, Zappa Dada, Zappa Jari, tout ça derrière, enfin, c'est Zappa, c'est Zappa carnavalesque.
Zappa c'est-à-dire Rabelais.
On pourrait se demander, puisque Duchamp lui-même avait rapproché Rabelais de Dada, si Dada n'est pas le moment carnavalesque de l'histoire. C'est-à-dire le moment où l'histoire de l'art... quand un médium est totalement saturé par sa propre histoire, qu'en grosso modo il ne peut plus ne faire que réitérer le même, à un moment faut tout casser, mais faut tout casser pas par détestation du médium, mais pour aider la vie à ressurgir. C'est Jarry qui disait vivre est le carnaval de l'être. Si on considère l'art comme être, alors, pour faire revenir la vie, il faut en passer par ce moment de casse. Et Zappa a fait ça avec la culture populaire, mais avec la culture populaire musicale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le carnaval du rock. Et en tant qu'il est carnaval du rock, en tant qu'il a fait le dada en rock, il a pu retrouver cette énergie-là. Et il a pu aussi la réinsuffler également à la musique classique. Parce qu'il y a ce musicologue que j'aime beaucoup, Michael Grébille, qui lui analysait Zappa complètement à l'envers. C'est-à-dire que lui, il voyait pas Zappa comme quelqu'un qui avait amené la musique classique au rock, mais au contraire, qui avait amené le rock à la musique classique. C'est-à-dire qu'il avait dit, la musique classique, vous êtes en train de mourir, regardez, je vais vous donner quelque chose pour vous réveiller.
Antoine Guillot.
Le propre de Zappa, c'est d'être effectivement les deux à la fois. C'est pour ce côté, qu'est-ce que c'est que le carnaval? C'est aussi la farce grotesque qui dévoile les structures mêmes du pouvoir. Et ça peut être structure du pouvoir, celle du playback à la télévision. Et vous racontez au moment de la tournée de Freak Out où il est invité à un show télé, on lui dit bon, mais ça serait bien quand même que votre orchestre joue en playback. Pas de problème. Mettez la bande son et eux jouent très ostensiblement autre chose en même temps que ça passe. C'est une énorme farce et ça dévoile tout d'un coup. Effectivement, les gens, sans doute, à ce moment-là, ont réalisé qu'il y avait du playback à la télévision. Vous dites plus tard, au moment de la sortie de One Size Fits All, que ces chansons sont des missiles envoyés dans le ciel pour dénoncer les illusions. Des chansons comme Cosmic Debris, Inca Roads, sur les fantasmes des extraterrestres dans la cordillère des Andes. Et effectivement, il est toujours à vibrer comme ça entre les deux. C'est le côté presque quantique de Zappa. Même quand lui parle de cette notion de continuité conceptuelle de grande note, ses observateurs notent qu'en même temps, il a le sourcil un peu levé et dans la lueur du regard, quelque chose de l'autoparodie. Il est à la fois dans l'humour et dans le sérieux, jamais complètement dans l'un, jamais complètement dans l'autre. Et ce qui est important, c'est la vibration perpétuelle entre ces deux états.
Guy Darol ?
Complètement. C'est le mélange de l'ironie primesautière et du plus grand sérieux. Je crois que c'est quelqu'un qui prenait vraiment l'humour au sérieux. Alors, c'est ce qui donne effectivement cet aspect carnavalesque dont on parle, mais qui a pour appui tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il intègre toutes ces notions musicales, tout ce vocabulaire musical, du plus grave, la musique savante par exemple, au plus léger, le doux. Mais ce qui le particularise, c'est cette capacité d'hybridation, plutôt de fusion. Je crois que c'est ça un peu la singularité de son langage musical. C'est probablement le premier dans la musique contemporaine du XXe siècle à avoir osé ces rapprochements.
Carole, Frank Zappa, c'est chez Gallimard dans la collection Biographie. Rapidement, nos préconisations graphiques, monsieur Antoine.
Oui, signaler, c'est un événement, la sortie de Zap Comics No. 16. On parlait des Freaks tout à l'heure. La revue Underground, créée par Robert Crumb en 1968, renaît de ses sens 12 ans après le dernier numéro. En fait, ce numéro de Zap Comics No. 16 était introuvable, ou alors de manière très chère et luxueuse, parce qu'il était inséré dans un coffret de l'intégrale de tous les Zap Comics, c'était le bonus. Alors il apparaît ici tout seul et on y retrouve Robert Crumb évidemment, mais aussi S. Clay Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin, Gilbert Shelton, le pape des Freaks, Paul Mavrides, Robert Williams, Spain Rodriguez, et aussi une nouvelle venue dans la bande, puisque c'était quand même une bande de mecs qui sentaient un peu des chaussettes, comme on dirait dans Sting Foot de Frank Zappa. Il y a Aline Kominsky Crumb, la femme de Crumb, avec qui il réalise depuis des années des pages communes, le Self-Loathing Comics, cette bande dessinée d'auto-dénigrement qui raconte aussi la vie d'un couple de dessinateurs underground âgés qui vit dans le sud de la France. Et on a des planches très récentes de 2014. Qu'est-ce que c'est d'être encore subversif et séditieux quand on a 70 ans passés? Ben vous pouvez le découvrir dans Zap Comics numéro 16 avec une superbe couverture de Robert Crumb, comme toujours.
C'est aux éditions Stara. On peut dire aussi, Guy Darol, que Frank Zappa, la couverture fait partie de la musique. Il y a autant d'attention de Karl Schenkel à la couverture que...
Eh oui, c'est la continuité conceptuelle. Et puis, il faut aussi se souvenir que c'était un grand lecteur de comic books. Et il aimait beaucoup aussi les musiques de dessins animés, en particulier celle de Cole Stalling.
Voilà, absolument, musique de Tex Avery, dont il s'est servi abondamment, comme de celle de Spike Jones. Village of the Sun, Village of the Sun, Sun village to you. Voilà, et si vous voulez découvrir Frank Zappa, il y a 104 numéros dans la discographie générale éditée par Zappa Records. Donc c'est tout simple, vous partez du 1 et vous allez au 103 et vous serez les gens les plus heureux du monde et vous serez intégrés dans la grande note, la vibration ultime et la continuité conceptuelle. On termine l'émission bien évidemment avec un autre maître, le maître Beer.
Le luxe boursouflé du Second Empire sacre la demi-mondaine ambitieuse qui défie la pudibonderie bourgeoise. Ce règne de la galanterie connaît son apogée durant la Belle Époque. La bourgeoisie libérale de la prospère Troisième République se veut moderne. La révolution industrielle crée une aristocratie de l'argent et Paris s'affirme en capitale du plaisir. Dans Les cocottes reines du Paris 1900, publié chez Paris Gramme, Catherine Guigon raconte pourquoi ces séductrices, d'extraction souvent modeste, danseuses, actrices ou modèles, symbolisent cette période d'insouciance tapageuse. Les biographies font état d'une enfance misérable, d'un père absent, d'un premier mari violent. Comme une revanche sociale, les hommes riches deviennent les marchepieds captivés de leur ascension. Catherine Otero, Liane de Pougy, Émilienne d'Alençon sont les guerrières horizontales les plus expertes. Pragmatiques et voraces, prisonnières d'un train de vie dispendieux, diable, il faut des toilettes renouvelées, un hôtel particulier et toute une valetaille, un landau attelé pour parader au bois. Elles passent sans répit du roi des Belges au Maharaja de Kapurthala, d'un industriel du sucre au vivier poissonneux des Rothschild. Le lit du boudoir est leur gagne-pain. Mais les cocottes d'une audacieuse indépendance ne sont pas des poules encartées. Sûres de leur beauté, moins entretenues qu'exploiteuses, elles se jouent des hommes. La belle Otero rafle 80 000 francs au librettiste Mélac pour l'autoriser à lui susurrer « mon bébé rose » et cravache un aristocrate russe contre 1,5 million de bijoux. Certains, plumés jusqu'à l'os, se suicident dans un ultime effort qui laisse les belles indifférentes. Elles cultivent le spectaculaire et la publicité, alimentent les écotiers en scandale. L'américaine Nathalie Barnet, dite l'Amazone, est l'une des plus émancipées, affichant son homosexualité auprès de Liane de Pougy. Dans sa propriété de Neuilly, elle donne des fêtes païennes entourées de ses amoureuses. La boue meurtrière de 14-18 met un terme à toutes ses effronteries. Accusée de forfaiture, Matahari bravache, dédaigne le bandeau et les liens du peloton d'exécution. Nourrie d'emprunts russes, la belle Otero, ruinée, écluse les casinos de Nice jusqu'à sa mort. Toujours dans l'excès, Liane de Pougy se délecte dans la contrition et la robe de bure. Elle devient Anne-Marie de la pénitence, tertiaire séculaire dans l'ordre de Saint-Dominique. Jésus est sa dernière tête couronnée.
Voilà, il n'y a pas eu Saint-Franck de la pénitence en robe de bure et en autoflagellation. Non, non, merci. Christophe Beer, merci Guy Darol d'avoir été donc ce soir invité de Mauvais Genre. On applaudit Guy Darol. Continuité conceptuelle. Joue à plein. Et je signale quand même que demain dimanche au Salon Radio France du Livre, eh bien à 15h, il y aura une rencontre bande dessinée avec Philippe Druyer qui fut notre invité il y a quelques semaines, animée par Jean-Christophe Augier. Et puis les Chevaliers du Fiel, on peut y voir quelque part un peu de zappéisme. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Sébastien Huel, Tanguy Lecorneau, Jean-André Giannichini, Christophe Michou, Benoît Jégou, Anaïs Isbert, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Antoine Guillot, Paco Mtielman, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, et non pas à la Maison de la Radio, mais à 17h au Musée d'Orsay, où en effet Radio France fêtera les 30 ans du Musée d'Orsay. Et je serai en compagnie d'Hubert Froidevaux, du groupe Plomb qui est Replonque. Là, on retrouve un petit peu l'inspiration de Franck Zappa et Étienne Barillet, avec qui nous évoquerons toute la dimension, je dirais, badinguée, la dimension Second Empire de la littérature, de l'illustration steampunk. Vous voyez, car en effet, grosso modo, que serait le steampunk sans le Second Empire? C'est ce que nous étudierons la semaine prochaine dans Mauvais Genre. D'ici là, écoutez, bonne nuit à tous, et on retrouve maintenant Maurice Chardot pour l'émission Métronomique. Bonsoir à tous et merci.